demande le peuple.
Tu parles tout de suite.
Bonjour, bienvenue dans le fil de l'histoire pour le cinquième et dernier épisode de notre série consacrée à l'histoire d'un phénomène politique, le populisme français de gauche ou de droite. C'est la question à laquelle nous tentons de répondre cette semaine avec l'historien Marc Lazard. Dans l'épisode précédent, nous avons parlé du poujadisme, ce mouvement antifiscal et antisystème des années 50 devenu un parti politique sous la bannière de Pierre Poujade. Mais les grands partis politiques classiques peuvent-ils parfois être atteints de populisme intermittent ?
Le peuple de France répugne à l'esclavage et à la servitude, à la discipline du troupeau soumise à la dictature d'un seul qui parle au nom des maîtres capitalistes. Car le fascisme, c'est en effet l'avilissement, l'anéantissement de l'individu. C'est l'impossibilité pour le savoir et le talent de donner leur pleine mesure dans le plein épanouissement de la liberté assurée à chacun et à tous.
Le 17 avril 1936, en pleine campagne électorale, cette campagne qui conduira deux semaines plus tard à la victoire du Front populaire, Maurice Thorez, le premier secrétaire du Parti communiste français, prononce à la radio un discours qui fera date. D'abord, c'est la première fois qu'un communiste s'exprime au micro de Radio Paris. Ensuite, le message que Thorez adresse ce jour-là aux Français est inhabituel. Il appelle, ni plus ni moins, je cite, à la réconciliation du peuple de France. Depuis deux ans, en effet, le Parti communiste, en accord avec Moscou, s'est engagé dans la voie du Front populaire avec les socialistes et les radicaux pour faire face aux menaces fascistes. Et il multiplie les appels au peuple. Dans son discours, Thorez se réclame de la tradition nationale depuis, je cite, les fabliaux populaires de notre Moyen-Âge jusqu'à Victor Hugo, Émile Zola et Henri Barbusse. Désormais, Maurice Thorez n'invoque plus seulement la classe ouvrière, comme le veut la tradition du parti, mais le peuple.
France Inter, le fil de l'histoire, Stéphanie Duncan.
Ce discours du 17 avril 1936 est célèbre surtout par sa conclusion, totalement inouïe pour l'époque, où le communiste Thorez, comme il le dit, tend la main non seulement au peuple de gauche, mais aussi, plus surprenant, aux catholiques et aux croix de feu qu'il appelle à voter pour le PCF. « Nous te tendons la main, catholiques, ouvriers, employés, nous qui sommes des laïcs, parce que tu es notre frère. » Et plus loin, Thorez ajoute « Nous te tendons la main, volontaire national, ancien combattant devenu croix de feu, parce que tu es un fils de notre peuple. » Face à ce peuple donc très élargi et qu'il espère uni, Thorez désigne l'ennemi qu'il faut désormais combattre, ce qu'il appelle les 200 familles et leurs mercenaires qui, je cite, « conduisent notre pays à la ruine et à la catastrophe ». Ce discours stupéfiant provoque la colère à droite, le camp où Thorez justement ose aller chercher des voix. Dans le Figaro, François Mauriac dénonce l'hypocrisie du rossignol léniniste, tandis que le républicain national Henri de Kérillis appelle les Français à ne pas tomber dans le piège. Deux semaines plus tard, le Front populaire remporte les élections. Le discours de Thorez y est-il pour quelque chose ?
Tous unis, dit la pancarte. Et tous unis, ils sont et resteront. Portrait de Pierre Cotte, Maurice Thorez, Henri Barbusse, Léon Bleu.
Marc Lazard, dans votre livre, vous écrivez que ce discours de la main tendue de Thorez, donc du 17 avril 1936, est l'un des plus marquants et les plus emblématiques de la nouvelle stratégie du Parti communiste français. Est-ce que c'est une stratégie populiste, le Front populaire ?
Non, absolument pas. C'est une stratégie d'unité antifasciste. La gauche considérait que le 6 février 1934, il y avait une menace fasciste et Staline, chef du Kremlin, en accord avec Maurice Thorez, avait demandé un rassemblement très large parce que l'idée, c'était de lutter contre le fascisme. Dans le cadre de cette unité antifasciste, il y a un changement d'orientation politique et de discours du Parti communiste français. Vous l'avez dit, ce n'est plus simplement la classe ouvrière, le prolétariat, comme on disait aussi beaucoup à l'époque, mais c'est un appel au peuple. Un peuple contre les élites, les 200 familles, avec un slogan qui va avoir une résonance jusqu'à nos jours, « Faire payer les riches ». Donc, ce n'est pas tellement une stratégie ici qu'une forme de style populiste. Mais attention, le populisme au Parti communiste français, c'est un populiste dans les périodes d'unité large. Quand c'est une période de repli, par exemple les années de guerre froide, les années 50, là, le Parti communiste français appelle rarement au peuple. Il appelle à la classe ouvrière, au prolétariat. Lorsqu'il s'agit de stratégie d'unité large, effectivement, il y a une propension au populisme. Mais attention, il est intermittent. Pourquoi j'emploie cet adjectif ? Parce qu'il est contrecarré par deux éléments. D'abord, l'importance du marxisme et donc l'importance, deuxième élément, des classes sociales et de la classe ouvrière. Donc, attention, c'est un populisme intermittent, mais par exemple, dans les années 70, Georges Marchais aura un style combinant des formes d'ouvriérisme et de populisme. Je suis sûr que nos auditeurs les plus âgés se souviennent du style de Georges Marchais, à la fois ouvriériste, justement, et populiste.
Marc Lazare, vous parlez dans votre livre d'autres cas en France de populisme intermittent. Vous parlez des maoïstes et du gaullisme. Quel rapport peut-il y avoir entre les maoïstes et le gaullisme ?
Alors, aucun, bien évidemment. Mais aucun. Mais attention, dans le cas des maoïstes, je prends en considération le fait que ce groupement, alors il faut rappeler peut-être ce que c'est que ces maoïstes, notamment pour les plus jeunes auditeurs. Un certain nombre de militants venus du communisme ont critiqué justement la timidité, le réformisme, le langage de l'époque parlé du révisionnisme du Parti communiste français qui ne serait plus révolutionnaire. Et ils ont regardé du côté de la Chine de Mao. Après 1968, ils vont aller vers une autre orientation qui va être illustrée par un journal qu'ils vont créer qui s'appelle La Cause du Peuple. Les maoïstes vont considérer qu'il faut essayer de parler à la classe ouvrière, mais ils n'y arriveront pas, malgré leur politique dite d'établissement, c'est-à-dire qu'ils envoient des militants, très souvent d'origine bourgeoise, travailler comme ouvriers dans les usines pour essayer de convertir justement les ouvriers. Et ça ne fonctionne pas parce que l'encadrement à l'époque de la CGT du Parti communiste français est particulièrement fort. Alors ils vont essayer de contourner cette difficulté en s'adressant justement au reste de la population, au peuple. Et le peuple, encore une fois, en a raison de se révolter, donc on peut aller du côté du peuple. Ils vont être réprimés, et lors justement de la répression contrainte de leur dirigeant, Alain Jespin, il va y avoir toute une propagande autour d'un mot très clair, procès Jespin. Procès du peuple. Comme si Alain Jespin était l'incarnation du peuple. En ce sens-là, il y a eu une propension populiste dans les Mao.
Et chez De Gaulle, alors ?
Oui et non. Et ça, je veux être très clair là-dessus. Oui, il y a un appel au peuple, on le sait, très souvent du côté du général de Gaulle, en particulier en 1946-47, lorsqu'il lance le Rassemblement du peuple français. Il y a une critique du régime des partis, celui qu'il déteste, qu'il abhorre, celui de la 4e République. Les partis politiques divisent justement le peuple. Il y a une idée quand même chez de Gaulle d'un peuple un. Il y a même une critique des élites chez lui, en particulier pendant la Seconde Guerre mondiale. Il considère qu'une partie des élites n'est pas venue le voir à Londres ou ne l'a pas soutenu. Mais en même temps, non, il n'est pas populiste parce que justement, il n'exalte pas le peuple, il ne le valorise pas. Au contraire, il se lamente des divisions de ce qu'il appelle les Gaulois par son langage, évidemment qui n'a rien à voir avec le langage de nombreux dirigeants populistes, par son exigence et par ce qu'il a proposé. Qu'est-ce qu'il a proposé ? Il a proposé avec la constitution de la Ve République en 1958 et l'élection au suffrage universel en 1962 par référendum, d'un côté la possibilité de donner le pouvoir à un homme qui est élu par le peuple, deuxièmement un parlementarisme rationalisé et troisièmement un rapport direct au peuple par l'intermédiaire notamment des référendums, mais qui ne sont pas des référendums plébiscitaires. La preuve, en 1969, il perd le référendum, il démissionne immédiatement. C'est donc un référendum de type personnel. Ça n'a rien à voir avec un référendum de type plébiscitaire.
Merci beaucoup Marc Lazare donc pour cette émission consacrée à l'histoire du populisme. Nous nous arrêterons au général de Gaulle, même si cette histoire est beaucoup plus longue dans votre livre, mais je renvoie à la lecture de votre livre pour en savoir plus sur les populismes contemporains. Pour l'amour du peuple, histoire du populisme en France, 19e-21e siècle, édité chez Gallimard dans la collection NRF Essai. À lire également de Pascal Horry, ce côté obscur du peuple chez Bouquin, et de Bertrand Joly, aux origines du populisme, Histoire du boulangisme, 1886-1891, aux éditions du CNRS. C'est la fin pour aujourd'hui du Fil de l'Histoire. L'émission était réalisée par Claire Destacan, assistée d'Anne-Cécile Perrin, à la technique Théo de Lobadère.